Bon matin tout le monde. J'ai la lumière dans les yeux. C'est correct, comme ça donne l'impression qu'il y a plein de monde peut-être. Je ne sais pas. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Comme notre frère disait, nos anciens, nos pasteurs sont en retraite aujourd'hui. Donc j'ai pensé que ce serait un bon temps de pouvoir parler des pasteurs. Mais on va parler en fait du grand pasteur, le modèle pour tous les pasteurs. Je m'appelle Jean-Sébastien, je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas, ça fait plusieurs années que je viens à l'église ici. Je suis entre autres impliqué dans les groupes Connexion. Donc dans notre groupe Connexion, depuis, je pense que ça fait un an et demi maintenant, on a commencé une série sur les psaumes. Puis on prend le temps de regarder à chaque semaine un psaume, d'avoir une conversation autour de ce psaume-là, puis de partager, de prier ensemble. Puis ce matin, j'ai pensé parler un peu aussi des psaumes. Les psaumes, c'est le livre des psaumes, qui est à peu près au milieu de la Bible. C'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament comprend à peu près 100 citations directes des psaumes, puis 400 allusions. Donc, c'est 500 références aux psaumes dans le Nouveau Testament. Avec deux petites exceptions, tous les livres du Nouveau Testament comprennent ou font référence aux psaumes ou citent les psaumes. Dès le premier livre, dans Matthieu, en fait, on a 15 références aux psaumes pour prouver que Jésus est le Messie. Dans les autres évangiles aussi, on fait référence aux psaumes. Même le diable, quand il tente Jésus, cite les psaumes. Les psaumes, c'est aussi le livre le plus cité par Jésus lui-même, quand il enseigne au peuple, quand il parle avec ses ennemis, quand il donne des preuves qu'il est le Messie. C'est lui qui cite les psaumes. Il cite aussi les psaumes en mourant sur la croix. Il cite les psaumes lorsqu'il ressuscite, sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il parle avec les disciples, il cite les psaumes. On voit que le peuple cite les psaumes lorsque Jésus rentre à Jérusalem aussi. Lorsque Luc décrit les soldats, les chefs religieux ont accompli les prophéties malgré eux, il cite les psaumes aussi. En fait, si on retirait toutes les références aux psaumes du Nouveau Testament, ça deviendrait presque incompréhensible. Ce qu'on voit dans tout ça, c'est que les auteurs du Nouveau Testament ont une profonde connaissance des psaumes. Ils peuvent les citer facilement et les connaissent de mémoire. Il y a des groupes, lorsque j'étais à l'université, j'étudiais, il y avait plusieurs juifs dans certains de mes cours. Puis il y a une communauté juive que lorsqu'un homme se marie, il doit pouvoir citer les psaumes par cœur avant de se marier, 150 psaumes à mémoriser. Peut-être que si c'est ce qu'on faisait aussi, ça encouragerait les gens, les jeunes hommes, à apprendre la Bible par cœur, si c'était une obligation. Les premiers chrétiens aussi, les auteurs de la Bible se réfèrent aux psaumes pour mieux comprendre qui était Jésus et son œuvre. Pour eux, les psaumes, c'était plus que juste des poèmes ou de la belle poésie ou de la belle musique ou des louanges. C'était aussi quelque chose de prophétique pour eux, qui décrivait la nature messianique de Jésus. Lorsqu'on lit les psaumes, on apprend à mieux connaître Jésus. On entre dans ses pensées. On voit aussi que les premiers chrétiens se rassemblaient pour réciter les psaumes. Plusieurs références dans 1 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens. On voit que les chrétiens citaient aussi les psaumes dans leurs prières. Puis au fil des siècles, les psaumes sont demeurés au cœur de l'Église. Puis même avant le développement des livres de cantiques modernes au 18e, 19e siècle, les psaumes étaient souvent les seuls cantiques chanté dans les églises. Dans les psaumes, on voit comment Dieu est grand, comment il est magnifique, comment il est sage, comment il est puissant. Puis on voit aussi l'expérience humaine de façon honnête, de façon profonde, avec toutes les détresses aussi que les humains peuvent vivre. Parce que les psaumes, ça s'adresse à la fois aux individus, aux personnes individuelles, mais puis aussi aux communautés. Les psaumes font une espèce de connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pense que le psaume le plus connu, c'est probablement le psaume 23. Un psaume qui est mémorisé par beaucoup de gens, apprécié par beaucoup, même des non-chrétiens connaissent le psaume 23. C'est un des passages qui est le plus aimé de toute la Bible. C'est un passage aussi qui est très familier. Mais quand c'est trop familier, des fois, c'est un danger. On devient tellement accoutumé aux mots, à la structure d'un texte, qu'on en oublie le sens. Où on pense qu'on connaît déjà tout le texte. Alors ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de regarder ensemble le psaume 23, 6 petits versets. Puis j'aimerais ça qu'on puisse le lire comme si on le lisait pour la première fois. Qu'on prenne le temps de réfléchir à qu'est-ce que ce psaume-là dit. C'est une méditation sur ce que l'Éternel fait pour ceux qui se confient en lui, sur sa bonté. Un psaume qui a été composé par David, un psaume qui parle du bon berger. Et David lui-même était un berger dans sa jeunesse, littéralement. Ensuite, il est devenu un berger de son peuple lorsqu'il est devenu roi. Mais dans ce psaume-là qu'il compose, David se voit lui-même comme une brebis. Alors, on peut tourner ensemble dans le psaume 23. On peut le lire ensemble. Alors, le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais commencer par un petit mot de prière. Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être assemblés ici pour lire, écouter ta parole. Merci parce qu'on peut s'approcher de toi avec une pleine confiance, une pleine assurance, parce qu'on sait que tu as tout accompli pour nous. Que le voile qui nous séparait de toi a été déchiré par la mort de ton Fils unique, Jésus-Christ. On te demande de nous bénir ce matin, d'ouvrir nos cœurs et qu'on puisse entendre ce que tu veux nous dire et qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. Amen. Une chose qui frappe dans ce psaume-là, c'est que c'est un psaume qui est très personnel. Ce n'est pas un psaume qui dit « nous ». Ce n'est pas « l'Éternel est notre berger », c'est « l'Éternel est mon berger ». Ça ne parle pas de « eux », des autres, ça parle de « lui », de « une autre personne », de Dieu. Ça, c'était déjà quelque chose de révolutionnaire à l'époque, où le culte religieux partout autour d'Israël était quelque chose de collectif. Mais ici, David s'approche de Dieu avec une intimité profonde. Je pense que c'est sans doute ça, une des raisons qui fait que le psaume est tellement attirant pour beaucoup de gens, c'est qu'on cherche à avoir la même expérience authentique d'intimité avec Dieu, comme David, là, ici, dans ce psaume. Ce psaume-là a deux parties, si on veut, principales. D'abord, on nous montre Dieu comme un berger, et deuxièmement, on voit comment Dieu est un hôte qui nous accueille. Alors, ça commence avec « L'Éternel est mon berger ». Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première ligne? C'est une phrase qui est tellement familière que je pense que des fois, on oublie la magnitude de ces mots-là. L'Éternel est mon berger. Et puis, l'accent n'est pas mis ici sur le berger comme tel. L'accent est mis sur qui est le berger. David est en train de dire que le Dieu éternel, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, est son berger personnel. David a une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que ça nous rappelle que la foi chrétienne, c'est ça aussi. C'est d'abord une relation personnelle. C'est quelque chose qu'on a entendu souvent, de dire « Ah, la foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. » Ce passage nous rappelle comment c'est vrai. Tout commence par une relation personnelle avec Jésus. Jésus lui-même se nomme le bon berger dans Jean 10. On va revenir un peu plus tard sur ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est que David dit avec assurance, « L'Éternel est mon berger. » On pourrait tourner la phrase à l'envers, dire « Mon berger, c'est l'Éternel », si on veut mettre l'accent sur ça. C'est qui est le berger qui est important ici. Comment est-ce que David pouvait dire quelque chose d'aussi grand? Et puis comment est-ce que nous, on peut dire la même chose? L'image du berger, c'est quelque chose de commun dans la Bible. C'est utilisé 76 fois dans 54 versets. Puis on voit ça souvent dans des contextes où on voit comment Dieu prend soin de son troupeau, de son peuple, ou de ses brebis, comment il protège, comment il conduit, comment il ramène les brebis perdues. Le berger, c'était une image que les anciens Israélites pouvaient comprendre. C'est une image aussi qui était commune dans les peuples aux alentours. Souvent, les rois étaient appelés des bergers aussi. On a souvent une image un peu bucolique et douce des bergers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images inspirées par le psaume 23, puis c'est toujours Jésus avec ses grands cheveux longs. Et c'est très, très bucolique, très paisible, avec ses brebis dans les bras. Mais en réalité, les bergers, c'était un métier assez dangereux à l'époque. C'était loin des lieux civilisés. C'était dans des endroits sauvages. Quand on voit que David était un berger, il parle qu'il se battait contre l'ours et le lion pour protéger son troupeau. C'était un métier dur. Les bergers avaient parfois des mauvaises réputations d'être un peu brigands à l'occasion. Loin des villes, ils pouvaient attaquer les voyageurs. Ils n'avaient pas toujours une bonne réputation. Souvent, une image qu'on pourrait associer plus au contexte nord-américain, aux bergers, j'y ai pensé longtemps à celle-là, je pense que ce serait le cow-boy. Ça ne fait peut-être pas aussi beau de dire « l'Éternel est mon cow-boy ». Mais c'est un peu ça l'exemple. L'image du berger qui est ici, ce n'est pas quelqu'un de doux et de faible, c'est quelqu'un de fort qui protège son troupeau. C'est plus un Clint Eastwood avec une fronde que des fois on voit juste le petit garçon David. C'est intéressant de voir aussi que lorsque Jésus est né, les anges ont annoncé sa naissance premièrement à des bergers, à des gens un peu sauvages qui vivaient loin des villes. Puis en utilisant l'image de ce berger-là, Dieu nous montre qu'il prend soin de ses brebis, mais aussi qu'il les protège. Alors ça dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Où est-ce qu'on cherche la satisfaction? Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes, avant même qu'on les demande. Puis on peut comprendre l'idée de manquer de rien de deux façons. C'est d'avoir tout ce qu'on désire. Ça pourrait être une façon de dire hey, « je manque de rien, j'ai tout ce que je désire ». Ou ça pourrait être le contraire, de dire ben, « je suis satisfait de ce que j'ai ». C'est comme l'option entre, je ne sais pas, le capitalisme ou le sauvage, ou la simplicité volontaire. Mais ce n'est pas ni un ni l'autre ici. Quand on lit qu'on ne manque de rien, il dit « l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », c'est parce que Dieu donne exactement ce qu'on a besoin pour une vie abondante en lui. Souvent, on a tendance à associer ça avec les biens matériels. C'est la première chose auquel on pense. De quoi j'ai besoin? On pense à des choses matérielles. Ça peut être les besoins de base, la nourriture ou les vêtements. Ou ça peut être une nouvelle auto ou un nouveau gadget. Mais ce n'est pas ça ce que ça veut dire nécessairement. Bien sûr, Dieu prend soin aussi des biens matériels. Mais il prend soin surtout de nos besoins spirituel et intime. Paul avait prié Dieu, il était malade, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait. Puis Dieu ne l'a pas guéri, il lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Paul avait exactement ce qu'il avait besoin, il ne manquait de rien quand Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Alors ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu n'ont pas de difficultés parce qu'ils manquent de rien. En fait, on sait qu'un peu plus loin dans le psaume, on arrive dans la vallée de l'ombre de la mort où il y a des difficultés. Puis dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas de lumière, peut-être. Il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'eau. On pourrait dire qu'il manque quelque chose. Mais ici, David peut dire avec assurance, « Je ne manque de rien parce que l'Éternel est mon berger. » Il sait que le berger est bon, il sait que le berger le conduit. Puis il sait que le berger le conduit pour aller dans un endroit meilleur. Il ne manque de rien. Le psaume continue en disant, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il y a une progression logique dans ce verset-là. Il faut regarder dans quel ordre les choses arrivent. Le berger donne d'abord le repos. Ensuite, il restaure l'âme. Puis ensuite, il conduit dans les sentiers de la justice. C'est vraiment l'image du salut par grâce. Beaucoup essaient de s'approcher du berger en inversant les étapes. Beaucoup de gens essaient de marcher premièrement dans les sentiers de la justice par leurs propres efforts. Ils espèrent que c'est ça qui va restaurer leur âme, puis qu'une fois que leur âme va être restaurée ou purifiée, qu'ils vont trouver le repos. Mais Dieu fait exactement le contraire ici. Il commence par donner la paix. La paix avec lui-même par le pardon des péchés en Jésus. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Avant même de changer quoi que ce soit, il commence par nous donner le repos. C'est ce que Jésus dit en disant « Venez à moi, je vous donnerai le repos ». Le psaume 23 nous rappelle comment la vie chrétienne doit être vécue. Ça ne commence pas par l'activité, par marcher dans le sentier de la justice, mais ça commence d'abord par le repos, par le réconfort. C'est la restauration que Dieu produit qui va produire ensuite l'activité. Il y a beaucoup de chrétiens, des fois, qui vivent à l'envers dans ça, courent partout, toujours occupés, toujours impliqués dans toutes sortes de ministères, peut-être. Beaucoup de projets, jusqu'à être fatigués. On a l'exemple de Marthe et Marie, dans le Nouveau Testament, où une prend le temps d'écouter les paroles de Jésus à ses pieds, puis l'autre est complètement pris dans les activités. La vie chrétienne, c'est d'abord une relation, ce n'est pas une activité. Les activités vont découler de la relation. Et puis, si les activités d'église remplacent la prière ou la dévotion personnelle, on manque le point. Alors, Jésus commence par donner le repos dans les verts pâturages. C'est l'endroit où Dieu nourrit ses brebis. Puis encore là, les verts pâturages, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un témoignage d'un pasteur qui parle d'un voyage qu'il a fait en Israël avec des étudiants, avec un groupe. Il était dans un lieu désertique. Il y avait de la roche, de la poussière, c'était sec. Puis il voyait au loin différents petits groupes de chèvres, de moutons, des troupeaux qui sont là, puis qui se promenaient d'un endroit à l'autre. Puis il n'y avait rien. Puis il demande au guide, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Le guide lui a expliqué qu'il y a deux sources d'humidité dans ces régions désertiques-là, là où les troupeaux vont pour paître. Il dit, des fois, il y a une petite pluie fine qui se ramasse sur les roches. Puis aussi, le soir, il y a un vent qui vient de l'est de la mer, puis qui amène un peu d'humidité. Ça fait de la condensation sur les pierres, ça produit de l'eau. Puis ça fait pousser des petites touffes de gazon, des petites touffes d'herbe, différentes herbes qui poussent entre les rochers ou dans le désert. Puis le pasteur prenait des notes, puis lui dit, mais comment ça s'appelle ça ici? Puis le guide qui vient de la région, bien, il dit, c'est les verts pâturages. C'est ça, les verts pâturages. À chaque jour, le berger conduit son troupeau d'un endroit à l'autre. Il l'amène du côté des montagnes où le vent va créer la condensation qui va permettre à la verdure de pousser. Ça produit la nourriture une journée à la fois, à chaque jour. On a parfois l'image des verts pâturages, peut-être comme de l'Ouest américain, encore à l'image de cowboy, hein? L'Ouest américain avec les grands blés qui poussent, où le troupeau reste là pour toute sa vie. Il ne bouge pas, il est nourri là pour toujours. Mais le vert pâturage, le troupeau doit aller de vert pâturage en vert pâturage, doit changer à chaque jour, il reçoit suffisamment de nourriture, exactement ce qu'il a besoin pour cette journée-là, puis il doit se déplacer. Il doit se déplacer pour aller à d'autres endroits. De l'extérieur, ça semble être un désert, mais il y a suffisamment de nourriture pour nourrir le troupeau. C'est ce que le Seigneur fait aussi dans nos vies. Il ne nous garde pas toujours au même endroit. Le vert pâturage, pour nous, c'est les bontés de Dieu qui se renouvellent à chaque jour, qui nous conduit et qui nous donne ce qu'on a besoin, une journée à la fois. Il restaure mon âme. Le psaume continue. Donc, il rafraîchit l'âme qui a soif, guérit les blessures du péché. Il y a seulement Dieu qui peut donner le repos, la restauration. Il n'y a aucune possession, aucune thérapie, aucune personne, aucune situation qui peut donner la restauration de l'âme. C'est lui qui donne la nourriture spirituelle. C'est lui qui restaure nos vies, rien d'autre. Et il conduit dans les sentiers de la justice. Le mot sentier ici, quand on y pense, puis c'est le nom de l'Église en plus ici, Un sentier, c'est un chemin qui a été tracé par quelqu'un d'autre. Le mot en hébreu fait vraiment référence à un sentier battu. Un sentier, ce n'est pas un nouveau chemin, c'est un chemin étroit, souvent dans les endroits un peu sauvages, où quelqu'un d'autre a passé avant. On peut voir les traces, le sol a été tapé. Alors, le berger conduit dans les sentiers de la justice. Quelqu'un d'autre est passé par ce sentier-là avant. Et il le fait à cause de son nom, c'est-à-dire pour sa gloire et pour sa réputation. Le berger ne conduit pas selon les désirs de la brebis. Le berger conduit selon ce qu'il sait qui est mieux pour la brebis. Parce que ce qui est en jeu dans ça, c'est la réputation du berger. Si vous êtes un fermier, que vous avez un berger qui s'occupe de votre troupeau, puis que plusieurs brebis sont perdues ou attaquées par des prédateurs, vous allez dire « Hey, le berger n'a pas fait son travail. » Puis si le berger ramène le troupeau bien nourri, en santé, complet, si la brebis prospère, on va dire « Le berger fait un bon travail. » C'est le berger, c'est sa réputation à lui qui est en jeu. Dieu veut nous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom, pour sa réputation à lui. Cette justice-là ne vient pas de nous, elle dépend de Dieu. Puis comme on voyait les verts pâturages, on doit se déplacer. Puis on arrive ici au verset 4, dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors tout d'un coup, l'image un peu verdoyante, l'image paisible qu'on avait change. Et on arrive dans quelque chose de difficile. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On pourrait penser que la bénédiction première du berger, c'est les pâturages, c'est l'eau paisible. Mais ce n'est pas le cas. Éventuellement, on doit bouger, on doit aller vers d'autres pâturages, et ça veut dire peut-être passer par des vallées sombres. C'est quoi la constante dans ce psaume-là? Est-ce que c'est les verts pâturages? Les verts pâturages ne sont pas constants. Les vallées de la mort, la vallée de l'ombre de la mort non plus n'est pas constante. La seule constante dans le psaume qu'on peut voir, c'est la présence de Dieu. Que ce soit dans les vallées sombres ou dans les pâturages verdoyants, ce qui est constant, c'est que Dieu est présent. Ça nous amène à se poser la question, est-ce qu'on est réellement sensible à la présence de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment assis à sa table, comme on va voir plus loin? Ou est-ce qu'on essaye seulement de grignoter sur le côté, autour? L'enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui erre tout seul, comme une brebis perdue. C'est une brebis qui aime son berger, qui demeure proche de son berger sur un sentier qui est battu, un sentier qui a été tracé. Et en fait, être proche du berger, être dans la présence du berger, c'est le seul endroit sécuritaire pour la brebis. Une chèvre ou un agneau tout seul, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quand j'étais jeune, on en avait, mon père, je ne sais pas s'il y en a encore, là, mais il y a régulièrement des chèvres. Ce n'est pas un animal très intelligent. Tout seul dans la nature, ça ne survivrait pas longtemps. Il y a des prédateurs. Le seul endroit sécuritaire pour la brebis, c'est proche du berger. Parce que le loup n'a pas peur de la brebis. Le loup a peur du berger. Satan n'a pas peur de nous. Satan a peur de notre Dieu. Et nous aussi, on veut rester dans cette présence-là. Notre sécurité spirituelle, notre bien-être spirituel dépend de la proximité avec le berger. Et le berger reste avec nous. Ça dit qu'il ne craint rien dans la vallée de l'ombre de la mort. La présence du berger éloigne la peur. Même dans les circonstances les plus difficiles, comme la mort, son bâton, sa houlette, nous réconforte, nous encourage, ça enlève toute crainte. Une remarque sur la forme du psaume. Pour les trois premiers versets, David parle de Dieu à la troisième personne. Il est le berger, il est mon berger, il conduit, il restaure. Ensuite, au verset 4 et 5, ça change. Il s'adresse à Dieu à la première personne. « Tu es avec moi. Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Une leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on ne peut pas parler longtemps de Dieu sans parler à Dieu. La théologie,
si je résume ou je simplifie, qu'est-ce que c'est la théologie? La théologie, c'est parler de Dieu. La théologie n'a pas d'importance si elle ne nous amène pas à parler à Dieu. Souvent, quand on entre dans des moments difficiles, quand on rentre dans les vallées sombres, on devient plus intime avec Dieu. Les crises de la vie nous rapprochent de Dieu. Quand ça va bien dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, on a tendance à parler de Dieu. Mais lorsqu'on entre dans les vallées sombres, on commence à parler à Dieu. Il y a un dicton militaire qui dit qu'il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Quand les bombes tombent, même les athées se mettent à prier. On n'apprend pas à faire confiance à Dieu dans les moments faciles, quand tout va bien. Quand on est dans les verts pâturages, on apprend à louer Dieu, à être reconnaissant, on apprend les actions de grâce, la louange. Mais dans les moments difficiles, on apprend à s'appuyer sur Dieu. On apprend à devenir intime avec lui. Il y a un danger, c'est sûr, dans les vallées sombres. On pourrait être en colère contre Dieu. On peut le rejeter. Il y a aussi un danger dans les verts pâturages, de devenir tellement satisfait du gazon, de l'eau, qu'on oublie le berger. Mais dans les ténèbres, dans la noirceur, on s'accroche à Dieu. C'est pour ça que Jacques écrit dans la lettre de Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » On peut se réjouir des épreuves et des moments difficiles parce qu'on apprend à devenir dépendant de Dieu. Puis comme on chantait ce matin, on chantait la joie. Même dans les épreuves, Jacques nous encourage à être joyeux, à se réjouir de ça. Quand on traverse des vallées sombres, on apprend à devenir dépendant de Dieu, à devenir intime avec lui. Puis pourquoi est-ce que le berger conduit les brebis dans la vallée sombre de l'ombre de la mort? C'est pour aller à un endroit meilleur. Il nous invite à sa table. Et le psaume continue comme ça. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Dieu est comme un hôte qui nous accueille, qui nous invite à un banquet. Ce n'est pas un banquet après la victoire, dans les films souvent, ou dans Astérix, là, ça finit toujours par le banquet à la fin. Hein, les Gaulois ont gagné, puis là, ils mangent le banquet avec les sangliers. Ici, on est invité à un banquet en face de nos ennemis. Ça peut être toutes sortes d'ennemis. Ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance, ça peut être le rejet, les difficultés. Ces ennemis-là n'ont pas la victoire. Puis au milieu des difficultés, au milieu du combat, Dieu organise un banquet, Dieu organise un party. La bénédiction du berger, ce n'est pas d'éliminer les ennemis. Il n'élimine pas les adversaires ici. Pas tout de suite. La bénédiction du berger, c'est sa présence. C'est d'avoir une relation avec lui, c'est de manger avec lui au milieu des tribulations. C'est d'être en présence de Dieu. Il oint d'huile notre tête. Je dis, tu oint d'huile ma tête. C'est un peu bizarre, ça, de mettre de l'huile sur une tête. Mais c'était commun à cette époque-là. C'était vu comme une bénédiction. Les rois étaient oints. Les prêtres étaient oints. Et les enfants de Dieu aussi sont oints en son nom. Dans 1 Pierre, ça dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut nous oindre. Il veut nous bénir. Et en présence du berger, la coupe de notre vie déborde de toutes sortes de bonnes choses. Le bonheur est avec nous pour toujours. Et ce bonheur-là, cette joie, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est la nature de Dieu qui procure ce bonheur-là et cette joie-là. Et puis on arrive à la destination. Le psaume finit avec « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Le psaume 23 est comme une sorte de pèlerinage, c'est comme un voyage. On passe au travers de pâturage en pâturage, il y a des vallées sombres, c'est la vie. Il y a des moments de pâturage vert, il y a des moments de vallées sombres. Puis dans tout ça, on se dirige vers une destination. Le Seigneur nous attire à la maison. Le psaume 23, c'est plus que juste un beau poème ou des belles images. C'est un rappel de qui nous sommes, d'où on vient et où on va. Notre habitation n'est pas ici. On est en camping sur la terre. On est étranger. Pourtant, on a souvent tendance à vivre comme si on était éternel ici, à penser que toute notre vie sur terre, c'est pour toujours. Mais c'est seulement du camping. Le psaume 23 est comme un crescendo de foi qui aboutit à « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Ça nous dit que la vie a un sens, que notre vie a une destination. La vie chrétienne, c'est se diriger vers la maison de l'Éternel. Et c'est cette destination-là qui devrait définir ce qu'on fait entre-temps. Peu importe ce qu'on fait sur terre, qu'on étudie la Bible, qu'on fait des projets d'évangélisation, des programmes pour les enfants à l'église, des groupes en tout genre, toutes les activités qu'on peut faire devraient nous amener ou à nous diriger vers la maison de l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut avoir la même confiance que David? Comment est-ce qu'on peut dire, nous aussi, l'Éternel est mon berger? La Bible nous montre clairement que Jésus est le berger. Le prophète Isaïe l'avait annoncé. En parlant du Messie dans Isaïe 40, il dit que le Messie est comme un berger qui paîtra son troupeau. Il prendra ses agneaux dans ses bras, les portera sur son sein. 1 Pierre 5 nous dit que Jésus est le berger qui prend soin des brebis. Hébreux 13 nous dit que c'est le grand berger qui reviendra dans la gloire. Puis un verset qui est bien connu dans Jean 10, Jésus lui-même qui dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu a un banquet avec nous, pas lorsqu'on sort des vallées sombres, de la mort, mais lorsqu'on est au milieu des problèmes, des difficultés, dans la présence de nos ennemis. Dieu veut qu'on se réjouisse avec lui au milieu de nos difficultés. Est-ce que notre berger est déconnecté de la réalité? Pas du tout. Jésus est le seul berger qui sait ce que c'est qu'être une brebis. En Isaïe 53, ça nous dit qu'il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus comprend exactement par quoi on peut passer. Puis il est avec ses brebis à chaque étape. Jésus est le seul berger qui sait qu'est-ce que c'est être une brebis. Il veut être avec nous même au milieu de la mort. Quand tous les autres guides nous abandonnent, Jésus veut être avec nous. Sur terre, toutes les bénédictions du psaume 23 sont accomplies en Jésus. C'est lui qui nous nourrit spirituellement, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne la joie. On peut réciter ce psaume-là avec confiance en nous-mêmes à cause de ce que Jésus a fait pour nous. C'est un psaume qui nous encourage aussi à faire de même envers les autres. Ça parle des bergers. Nos bergers, présentement, sont en retraite, eux aussi. Ils ont un rôle important pour nourrir le troupeau spirituellement, pour restaurer, pour guider, pour protéger. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à mémoriser le psaume 23, à le réciter souvent. Le psaume 23 est un psaume intéressant parce qu'on dirait que quand on le récite, le psaume lui-même devient un vert pâturage. Le psaume est comme une eau qui vient nous rafraîchir, une table en face de nos ennemis. Puis on peut s'approcher et dire avec confiance, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »